VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 23 août 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Zimbabwe, l'opposition a demandé hier à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection du président sortant, Emmerson Mnangagwa.
En République centrafricaine, les groupes armés présentent leurs revendications à des experts de l'Union africaine.
Burundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a déploré hier la lenteur des négociations entre le gouvernement et l'opposition.
Plus de 100 migrants ont pénétré hier dans l'enclave espagnole de Ceuta, frontalière du Maroc.
Ici aux États-Unis, entrée en vigueur de taxes de 25% sur 16 milliards de dollars d'importations chinoises.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Déco, pour l'instant le journal.
Au Zimbabwe, l'opposition a demandé hier à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection du président sortant, Emmerson Mnangagwa. Elle a dénoncé des fraudes et des manipulations qui ont été aussitôt démenties par le camp du vainqueur. Le point avec Morgane Guiriec.
La confrontation entre les deux camps s'est déroulée dans une salle comble et sous haute surveillance policière. Les échanges ont été retransmis en direct par la chaîne nationale. Les avocats du mouvement pour le changement démocratique ont tiré à boulet rouge sur la commission électorale, accusée d'avoir truqué les résultats. Les avocats d'Emmerson Mnangagwa ont rejeté ce qu'ils ont qualifié de dossier vide de preuves. De son côté, l'avocat de la commission électorale a plaidé le rejet pur et simple de la demande du MDC au motif qu'elle avait été déposé hors délai. Au terme d'une longue journée, les 9 juges ont donc levé l'audience et renvoyé leur décision à vendredi après-midi. Ils peuvent exiger un recomptage des voix, ordonner un nouveau scrutin ou bien confirmer les résultats.
En Centrafrique, les groupes armés ont présenté près de 100 revendications, dont l'amnistie générale, au panel d'experts de l'Union africaine qui organise une médiation avec le gouvernement. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Partage des pouvoirs, gouvernement d'union nationale, construction de routes, amnistie générale ou encore restructuration de l'armée pour ne citer que ces points. Le panel de l'Union africaine a enregistré 97 revendications des groupes armés opérant en Centrafrique pour un retour à la paix. Des émissaires de chaque groupe armé doivent se réunir avec le panel à Bouar le 27 août pour une harmonisation des revendications avant de les soumettre aux autorités. Les combattants ont toujours réclamé l'amnistie générale, ce que les autorités ont à chaque fois refusé. Une cour pénale spéciale a été créée pour juger les crimes commis dans le pays depuis 2003. Autre revendication des groupes armés, la révision des accords de coopération militaire avec la Russie. Moscou aurait tenté d'organiser samedi une réunion de médiation parallèle à Khartoum.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a regretté hier la lenteur des négociations au Burundi entre le gouvernement et l'opposition, malgré la décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas être candidat à sa succession en 2020. Dans une déclaration unanime, le Conseil a salué cette décision tout en soulignant que des progrès supplémentaires seront nécessaires pour la tenue d'élections crédibles dans 2 ans. La communauté d'Afrique de l'Est cherche à arranger un accord politique entre le gouvernement et l'opposition.
Le Mozambique a mis en place de nouveaux tarifs en très forte hausse pour l'enregistrement et l'accréditation des journalistes locaux et étrangers. Raissa Girondin.
Le nouveau décret du gouvernement est entré en vigueur hier. Désormais, un journaliste étranger doit débourser 1500 euros pour faire un reportage et jusqu'à 7500 euros par an s'il souhaite s'installer comme un correspondant d'un média étranger. Les médias locaux ne sont pas épargnés car la taxe pour enregistrer une chaîne de télévision est passée à 45 000 euros. L'ONG locale de défense de la presse MISA Mozambique a annoncé son intention de dénoncer la mesure devant la justice. Human Rights Watch et Amnesty International ont dénoncé une tentative évidente de faire la chasse aux journalistes. Le gouvernement de Maputo a laissé entendre qu'il pourrait amender son décret, mais n'a pas retardé son entrée en vigueur. La mesure a été adoptée avant des élections locales prévues le 10 octobre, alors que l'extrême nord du pays est le théâtre de sanglantes attaques attribuées à un groupe islamiste.
Crise migratoire en Méditerranée, plus de 100 migrants ont pénétré hier dans l'enclave espagnole de Ceuta, frontalière du Maroc. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Hier matin, 300 migrants ont essayé de traverser la frontière. Les forces de l'ordre marocaines ont réussi à en stopper certains, mais 116 migrants ont réussi à passer après avoir escaladé la clôture de 6 mètres de haut qui sépare l'enclave du Maroc. Pour repousser la garde civile, des migrants ont jeté sur les agents de sécurité des récipients en plastique remplis d'excréments, de sang, de chaux vifs et d'acide. Des images diffusées par le journal local montrent des jeunes migrants africains fous de joie d'être en Espagne après avoir escaladé la double clôture, certains agitant un drapeau espagnol ou européen. Plusieurs ont des blessures aux jambes et aux mains. 5 migrants ont été conduits à l'hôpital de Ceuta. Ceuta et Melilla, deux enclaves espagnoles, sont la seule frontière terrestre entre l'Union européenne et l'Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Eh bien, maintenant, pour le reste de l'actualité, disons que ici à Washington, le président Donald Trump a rejeté hier toute accusation d'infraction et il a contredit son ancien fidèle avocat Michael Cohen. Ce dernier a affirmé mardi devant un juge fédéral avoir acheté à la demande du candidat le silence de deux maîtresses présumées à quelques jours de la présidentielle de 2016. Monsieur Trump a déclaré sur Fox News qu'il n'avait pris connaissance que plus tard des paiements versés aux deux femmes. Ce n'est même pas une infraction aux lois électorales, a-t-il affirmé. Les fonds ne venaient pas de l'équipe de campagne, ils venaient de moi.
Le chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi a appelé ses partisans à poursuivre le djihad dans un message diffusé hier sur Telegram par des comptes pro-djihadistes. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, il a appelé à frapper pour terroriser, exhortant ses partisans en Occident à mener des attaques à l'explosif ou à l'arme blanche sur leur terre. Il s'agit là du premier enregistrement attribué à Abu Bakr al-Baghdadi en près d'un an. Son organisation est acculée en Syrie et a été chassée de tous les centres urbains d'Irak après avoir contrôlé de vastes territoires dans ces deux pays.
En Arabie Saoudite, le procureur public a requis la peine de mort pour 5 militants des droits de l'homme, dont une activiste de renom, Isra Al-Ghomgha, qui pourrait devenir la première femme du pays à être exécutée en rapport avec son engagement en faveur des droits fondamentaux. C'est ce qu'a indiqué mercredi soir Amnesty International, qui demande aux autorités saoudiennes d'abandonner leur plan immédiatement. Les prévenus sont accusés d'avoir incité à la contestation au sein de la minorité musulmane chiite dans une région stratégique de l'est du pays, riche en hydrocarbures.
L'administration Trump a frappé aujourd'hui d'une nouvelle salve de taxes douanières 16 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis pour punir Pékin, accusé de pratiques commerciales déloyales. Cela portera à un total de 50 milliards de dollars les marchandises chinoises taxées à 25% en entrant sur le territoire américain. La Chine a aussitôt réagi en annonçant des représailles nécessaires. À noter qu'Américains et Chinois doivent poursuivre aujourd'hui, ici à Washington, leurs discussions, entamées hier, pour tenter de mettre fin à une guerre commerciale entre les deux principales économies du monde. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La société de gestion de l'eau et de l'assainissement du Rwanda va investir 300 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour renforcer l'approvisionnement en eau potable. Financé par la Banque africaine de développement, ce programme va créer plus de 40 projets d'eau et d'assainissement dans plusieurs villes du pays et devrait bénéficier à plus d'un million de personnes. Le lancement est prévu en octobre. La Côte d'Ivoire a déjà vendu 1,7 million de tonnes de cacao sur sa prochaine récolte qui doit démarrer début octobre. Le pays, qui subit de plein fouet depuis 2 ans la chute des cours, entend céder toute sa récolte avant le début de la saison pour se prémunir contre l'instabilité du marché. Le pays va ainsi maintenir un prix garanti à ses paysans entre 750 et 800 francs CFA le kilo contre 700 francs CFA pour la campagne qui s'achève.
À moins d'un mois du 10e anniversaire de la crise financière de 2008, Wall Street a battu mercredi un record de longévité à la hausse. Il n'y a eu aucune baisse de plus de 20% pendant 3453 jours, ce qu'on appelle communément un « bull market » en référence au taureau qui symbolise la puissance de la finance.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Clinton Ndiaye ne rejoindra pas finalement le Sporting Portugal.
Eh oui, l'attaquant camerounais de l'Olympique de Marseille ne sera finalement pas prêté au Sporting du Portugal. Les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord sur les conditions de ce prêt. Clinton Ndiaye était arrivé mardi à Lisbonne pour être prêté au Sporting Portugal, selon la presse locale. Le joueur de 25 ans s'était dit très heureux de rejoindre les Lions de Lisbonne en raison de l'ambition du club. Il aurait été recalé à la visite médicale, selon les médias portugais. Ndiaye est arrivé à Marseille il y a 2 ans en provenance de Tottenham sous la forme d'un prêt avec option d'achat que l'OM a levé en 2017 lors de la saison dernière. L'international camerounais a marqué 7 buts en 22 matchs de championnat avec l'OM.
Autre transfert.
Watford a annoncé un accord à l'amiable avec Brice Djadjedje pour résilier le contrat du joueur. L'international ivoirien de 27 ans, passé par l'Olympique de Marseille, avait rejoint Watford en 2016 contre 4 millions d'euros. Blessé au pied, il a disputé seulement 2 matchs de FA Cup avec le club anglais avant d'être prêté à Lens la saison dernière. Il devrait rebondir en Turquie.
Thierry Henry pourrait devenir l'entraîneur de Bordeaux.
En quête d'un successeur à Gustavo Poyet, dont la mise à pied devrait déboucher vendredi sur un licenciement, Bordeaux a misé sur Thierry Henry, le champion du monde 98. Le recordman début en équipe de France devait se rendre aux États-Unis pour rencontrer les Américains de JACP, les nouveaux propriétaires du club, à partir du 28 septembre prochain.
Bordeaux qui joue en Ligue Europa ce jeudi.
Bordeaux se déplace tout à l'heure en Belgique pour affronter la Gantoise en barrage aller de l'Europa League. Dans les autres affiches, le Celtic Glasgow éliminé au 3e tour de qualification de la Ligue des Champions ira défier les Lituaniens des Suduva des Marie-Jean-Paul, tandis que Séville affrontera les Tchèques de Sigma Olomouc. Bâle recevra Apollon Limassol. L'Olympiakos du Pirée accueillera Burnley et Beşiktaş ira chez le Partizan de Belgrade.
Barrage aller de la Ligue des Champions.
Oui, l'Ajax d'Amsterdam s'est imposé 3-1 ce mercredi à domicile face au Dynamo Kiev en barrage aller de cette Ligue des Champions, tout comme l'AEK Athènes, vainqueur sur le terrain des Hongrois de Vidi de 2-1. L'équipe néerlandaise a pris une option pour la qualification. Enfin, les Young Boys de Berne ont concédé le nul 1-2 à domicile contre le Dynamo Zagreb.
Enfin, Cristiano Ronaldo rêve de remporter la Ligue des Champions avec la Juventus Turin.
Débarqué à Turin cet été après son transfert pour 100 millions d'euros du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a affirmé qu'il allait se concentrer sur la Ligue des Champions.
Raïssa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, coup de projecteur sur la seconde chance d'Ibeka au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta dispose de 5 ans de plus pour redresser un pays divisé et fragilisé par l'insécurité. Quels sont les défis qui attendent Ibeka pour ce nouveau mandat? Pourquoi la mise en place de l'accord de paix avec les rebelles traîne-t-elle 3 ans après sa signature? Quelles sont désormais les attentes de la population malienne et que laisse présager son désintéressement de la politique? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Salut les amis, Roger Mountou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Bon, la main, l'Afrique, ouais, ta main, ou la main, mais... Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, plusieurs interprétations au sujet de nouvelles conditions posées par le pasteur Ntoumi en prélude au lancement de l'opération de ramassage des armes dans le Poul. Nombreux sont ceux qui estiment que Ntoumi pense moins aux populations qui ont subi les conséquences de la violence et se met lui-même en avant au détriment de l'intérêt général. Arsène Séverin est notre correspondant à Brazzaville.
Dans un échange mardi à mi-été dans le Poul, le pasteur Ntoumi a demandé que le gouvernement améliore ses conditions de vie avant qu'il ne sorte de la forêt pour accompagner la mise en œuvre de l'opération de ramassage des armes. Cela lui permettra de rester stable dans la localité de Mayama et de ne plus repartir en forêt. Mais certains acteurs de la société civile estiment que ces nouvelles conditions sont une exigence de trop. Pour Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, une ONG locale, Ntoumi ne pense qu'à lui-même.
Nous pensons bien que, en tant que société civile, en tant que défenseur des droits de l'homme, il n'a pas de souci de la population qui a souffert pendant beaucoup de temps et la population qui a perdu les biens. Les conditions qui peuvent bloquer le ramassage des armes lorsque la population est impliquée. Mais là, le pasteur Ntoumi n'implique pas la population. Le pasteur Ntoumi revendique ses propres biens, revendique qu'on lui construise des maisons, qu'il puisse aller, qu'il sorte de la forêt. Mais non!
Une lecture rejetée par le coordonnateur de l'opération de ramassage des armes dans le Poul, le colonel Pierre Mungo, qui précise que l'ex-chef rebelle n'a fait que solliciter l'aide du gouvernement et que cela ne devrait pas entraver le ramassage des armes dans le Poul.
Le révérend pasteur Ntoumi, avec lequel la commission ad hoc mixte paritaire a conféré à mi-été, n'a fait aucune exigence. Le révérend pasteur Ntoumi a plutôt sollicité du gouvernement un appui à la réinstallation d'un de ses logements. Il n'y a eu ni exigence à caractère politique, ni exigence à caractère économique ou financier. Le révérend pasteur Ntoumi a dit « Je vous accompagne dans l'opération de ramassage des armes ». Donc cela s'appelle un appel clair au ramassage des armes. Donc un jeudi, ceux qui sont à la coordination sont sur le terrain avec moi à Kinkala et les autres rejoignent immédiatement les centres de collecte pour participer à l'opération de ramassage des armes tel que initialement prévu. Il se fait du ramassage des armes et nous en avons déjà collecté.
En attendant la sortie officielle du pasteur Ntoumi pour appeler ses miliciens à remettre les armes, le révérend a demandé à ses lieutenants de rejoindre leur place à la commission mixte paritaire de paix dans la capitale. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a enregistré 46 candidatures pour l'élection présidentielle prévue les 7 novembre et 19 décembre prochains. Les trois derniers chefs de l'État sont en lice. Idriss Fall a joint à Antananarivo David Rajan, directeur du think tank e-Politica.
En 2013, Madagascar a connu une élection présidentielle et on a vu 39 candidatures. Là, on est à 46 et ça vient de tomber. 10 candidats ont été invalidés. Au total, on a 36 candidats aujourd'hui. La liste officielle sera connue dimanche prochain.
Et qui sont les candidats potentiels les plus connus et les plus en vue?
Naturellement, donc, il y a les anciens présidents, 4 anciens présidents de la République qui se présentent, et également le président de l'Assemblée nationale actuelle. Ils sont très connus. En même temps, on peut dire qu'ils ont aussi les moyens de leur ambition.
Y compris notamment les deux anciens frères ennemis, Marc Ravalomanan et Ange Rajoel.
Oui, ce sont les deux grands prétendants, en fait, de la magistrature suprême. On peut dire qu'ils sont déjà préparés depuis longtemps. Et on remarque également que la campagne électorale a déjà bien commencé avant la date officielle.
Et il semble même que Didier Ratsirak, 81 ans, ancien président, veut revenir dans la course.
Oui, et sa candidature a été retenue. Ancien président, 81 ans, il a beaucoup de choses à dire. beaucoup plus par rapport à ce qu'il veut partager, qu'il se prétend être de nouveau candidat et surtout essaye de s'imposer dans le débat politique.
Est-ce qu'on peut dire que ces prochaines élections vont aider la Grande-Île à sortir définitivement de toutes ces crises à répétition?
Pas tout à fait, parce qu'on a une crise de représentation dans Madagascar qui se transforme en crise de gouvernement. La conséquence, c'est la crise de développement. On peut dire aussi que cette élection est différente des élections qui se sont passées auparavant, parce qu'il y a déjà eu une crise pré-électorale au mois de juin-juillet 2018. Donc.
Les deux opposants demandaient le départ de l'actuel président, R. Ramam Kianan.
Oui, les deux opposants, avec une alliance, ont fait des actions pour que le départ de l'actuel. La vraie question, en fait, était sur la loi électorale, tout simplement. Hein.
Et maintenant, c'est réglé, cette loi électorale?
La loi électorale n'est pas réglée, mais l'élection va se tenir quand même.
David Rajaon, directeur du think tank e-Politica.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, coup de projecteur sur la seconde chance d'Ibeka au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta dispose de 5 ans de plus pour redresser un pays divisé et fragilisé par l'insécurité. Quels sont les défis qui attendent Ibeka pour ce nouveau mandat? Pourquoi la mise en place de l'accord de paix avec les rebelles traîne-t-elle 3 ans après sa signature? Quelles sont désormais les attentes de la population malienne et que laisse présager son désintéressement de la politique? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Tchad, poursuite de l'opération de recensement des effectifs des enseignants lancée le 3 août dernier par l'inspection générale d'État. On déplore 3 semaines après des lenteurs dans l'opération qui concerne les agents du ministère en charge de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire tchadien. De N'Djamena, le correspondant de VOA Afrique, André Kodmadjingar, fait le point.
Cette opération permettra à l'équipe de l'inspection générale d'État de dégager les agents qui sont en activité au ministère de l'Éducation nationale, ceux qui sont soit affectés, soit en position de mise en disponibilité, ou soit retraités ou décédés les 3 derniers mois. Elle vise également à dénicher les agents qui n'existent pas sur la base de données de la direction des ressources humaines du dit ministère afin d'assainir les fichiers de la solde. Il faut être recensé pour avoir le salaire du mois de juillet, mais le service est trop lent. Les enseignants des provinces dont le salaire est aligné en N'Djamena tournent en rond depuis plus de 3 semaines. Réaction de quelques-uns.
Le jeudi, il y avait un collègue enseignant qui était tombé suite à ces histoires-là. Et finalement, le monsieur a rendu l'âme. C'est une manière également de nous brimer et de nous tuer même en même temps. S'ils ne sont pas capables d'organiser le recensement, qu'ils arrêtent.
Je pense que c'est un règlement de compte. Dans un pays où il n'y a pas d'éducation, c'est un pays qui est mort.
Comment se fait-il que quelqu'un est affecté à Doba ou soit à Béché, on l'aligne ici en N'Djamena? Cela veut dire qu'on ne connaît pas sa position. On nous torture, on nous malmène pour rien comme ça. Là.
Nos enfants sont en train de pleurer. Nos enfants sont en train de se lamenter. Nous, on souffre. Mais quand on devait se mettre sur le coup de route, ils vont dire nous sommes des rébellions. Ils vont nous accuser comme ça, mais nous sommes les pères de la famille. Ça ne marche pas du tout.
L'inspecteur Ndeki Bilimi, chef de mission de l'inspection générale d'État, se dit conscient de la situation des anciens provinciaux et demande leur indulgence.
La mission de contrôle et des pays qui est en cours concerne les agents du ministère de l'Éducation nationale qui exercent dans la commune de N'Djamena. Nous ne savons pas qu'il y a des provinciaux qui sont alignés en N'Djamena. Nous les avons trouvés, c'est une situation de fait, et nous essayons de trouver une solution. Mais il ne peut pas passer avant ceux de N'Djamena quand même.
Les élèves fonctionnaires, ceux qui sont en activité mais qui sont repartis à l'école normale supérieure par voie de concours, sont également dans la même situation que les enseignants des provinces. Or, ces élèves fonctionnaires affirment avoir introduit leur dossier à la solde pour transformer leur salaire en bourse d'études. Figo Célestine en est victime.
Est-ce que c'est vraiment un péché de refaire un concours, aller à l'école pour améliorer ses connaissances et venir rendre service au pays? Est-ce qu'il faudrait qu'on demeure avec le niveau qu'on a quand on entre et qu'on sorte avec? Et je ne sais pas si quelque part, il y aura d'autres jeunes qui vont prendre plaisir à vouloir venir dans ce métier d'enseignant. Franchement, c'est regrettable.
Le chef de mission de l'inspection générale d'État, Ndeki Bilimi, donne des clarifications.
Nous, on ne refuse pas de payer les salaires aux fonctionnaires élèves. Mais il se trouve que ces fonctionnaires élèves ont des primes de crédit et de documentation, alors qu'ils n'ont pas droit. Donc nous avons dit, nous sommes prêts à payer le salaire, mais nous ne pouvons pas vous payer avec les primes de crédit et de documentation. Ces primes sont accordées aux enseignants. Quand vous êtes élève, vous ne pouvez pas en bénéficier.
André Kodmadjingar, N'Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Guinée, plusieurs filles sont mariées avant même d'avoir 15 ans. La situation préoccupe le Club des jeunes filles leaders de Guinée, une association qui milite pour le respect des droits des filles. Ces jeunes activistes ont réussi à faire annuler des tentatives de mariage précoce. Elles sont plus de 200 filles à veiller au respect des droits des filles dans tout le pays, nous dit notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Les jeunes filles leaders de Guinée sont convaincues qu'il faut réagir pour éviter de nouvelles victimes de mariages forcés et précoces. Pour réussir le combat qu'elles mènent contre une situation qui a la peau dure, elles sollicitent le soutien de l'autorité centrale. Les responsables de l'association ont été reçus par le premier ministre guinéen. Hadia Idrissa Ba, présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée.
Nous sommes là pour partager avec lui toutes les actions que nous sommes en train de mener aujourd'hui dans le club, dans le cadre de l'émancipation de la jeune fille, et aussi lui demander un soutien, c'est-à-dire qu'il nous aide vraiment au niveau de leur département, c'est-à-dire le département de la justice, que ceux-ci acceptent d'accélérer l'harmonisation des différents codes juridiques dont les lois ne sont pas en harmonisation.
Selon le code de l'enfant en Guinée, tout être humain âgé de moins de 18 ans est un enfant, alors que le code civil impose 17 ans comme âge minimum pour se marier. Les jeunes filles leaders ont sollicité l'implication du chef du gouvernement guinéen sur ce point précis. Ibrahima Kassori Fofana a promis d'aider le club des jeunes filles leaders de Guinée.
Toutes ces horreurs-là doivent disparaître dans des sociétés entre guillemets civilisées. Ces jeunes filles mènent au combat nos enfants. Nous avons le devoir civique de les appuyer. Nous ferons la plaidoirie auprès du système judiciaire pour que cette dichotomie soit levée.
Les membres du club des jeunes filles leaders de Guinée sont arrivés chez le Premier ministre accompagnés du représentant de plan international. Pour Amavi Apamabou, la lutte contre les mariages des enfants doit être une affaire de tous.
C'est beaucoup plus des actions en direction de la masse populaire, de faire en sorte que chacun comprenne que ce n'est pas de leur intérêt que les enfants, les filles soient mariées à bas âge, parce que ça détruit l'avenir de l'enfant, ça détruit toute une génération en réalité, et de faire en sorte que le message puisse passer dans les contrées les plus reculées, mais aussi dans les grandes villes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a proposé son appui personnel en tant que citoyen guinéen aux activités que les filles comptent mener dans la journée de demain à travers cette caravane.
Le lendemain, la caravane se met en branle dans les rues de Conakry. La campagne vise les marchés. Partout, le message est le même. Le mariage des enfants est une violation des droits, mais pour Foulematou, membre de l'association, cette pratique a des conséquences sur la vie de la jeune mariée.
Ce qui est choquant dedans, c'est que c'est un enfant qui donne naissance à un autre enfant. En plus de tout ça aussi, sur le plan de la santé, il y a des troubles psychologiques chez la fille. En plus de ça, la fille peut être stigmatisée par son mari. Parce que le mari dit, la fille là, elle est devenue charge pour moi. Alors qu'est-ce que le mari fait? Il part chercher une autre femme, une autre fille qui a déjà un métier ou bien qui a étudié, étant maintenant faire d'elle sa femme. Et l'autre femme déjà est rejetée avec ses enfants.
Le club des jeunes filles leaders de Guinée a fait annuler au moins 10 tentatives de mariage d'enfants il y a quelques jours. Il a empêché la célébration du mariage d'une fille de 14 ans qui devait rejoindre son mari en Côte d'Ivoire. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.